Vous écoutez
RMC.
Tout de suite,
moi, je vais sortir un magazine.
Roger Federer est-il le meilleur?
Il est considéré pour la plupart des joueurs spécialistes de tennis comme l'un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps.
Roger. C'est comme ça du tennis.
C'est l'un des héros de tous les jeunes qui jouent au tennis.
Je pense qu'elle est faute.
Ah. Elle touche. Ah, c'est incroyable. Federer remporte l'Open d'Australie.
Federer, partout où il joue dans le monde, que ce soit en France, mais même ailleurs, il a le public pour lui.
Et il avait une telle aura, une telle emprise sur cet adversaire, que 99% du temps, il avait gagné ses matchs avant de rentrer sur le terrain.
Ça fait du bien d'être sur le podium en comme vainqueur pour une fois. Je ne sais pas comment je peux vous remercier, mais je crois le titre, j'espère, c'est un tout petit quelque chose.
La beauté du tennis, c'est une autre planète. Quand Federer joue, on a l'impression que le tennis, il est facile.
Le public retient son souffle. Federer qui s'applique, il trouve la zone de revers de Chilich, un service gagnant. Et Federer qui triomphe, il remporte son 20e grand chelem. Incroyable Federer.
Mais jamais répondu.
Sur le terrain.
Roger Federer est-il le GOAT? Je ne vais pas vous faire un grand discours parce que la question est très simple. Je vous fais juste une mise en garde. C'est pas parce qu'aujourd'hui tous les hommages sont pour Federer parce qu'il vient d'annoncer sa retraite. Il ne faut pas faire de débat. Hein.
Ouais, mais là, non, mais c'est pas beau, Pierrot. Tu dis ça parce que c'est de lèche les deux là.
Non, mais je connais très bien l'histoire. Le jour où Nadal va prendre sa retraite, c'est le GOAT.
Mais oui, voilà. Mais tu as raison. Il me faut honte aussi.
Nous accueillons celui qui a fait un peu la carrière de Roger puisque vous avez entendu tous ses commentaires en direct. C'est Eric Salio. Salut Eric.
Salut le Moscato Show.
On va avoir du mal à résumer la carrière de Federer, 20 titres du Grand Chelem, 8 fois Wimbledon, un ratio hallucinant de 82% de victoires dans sa carrière sur plus de 1500 matchs. Une carrière immense donc dont on va ressortir quelques moments très importants, Eric.
Oui, alors on peut situer l'acte de naissance de Roger Federer au 1er juillet 2001 à Wimbledon, lorsqu'il dégomme son idole de jeunesse Pete Sampras. Deux ans plus tard, il remporte le tournoi de ses rêves et craque au moment du speech. Écoutez.
Oh yeah, a lot of people came from Basel and home, and so nice, you know, to share this moment. And thanks to everybody. Oh, it's great!
Congratulations, Roger Federer!
Oui, congratulations. Ouais, il y aura beaucoup d'autres larmes dans la carrière du Balois, mais c'est lui qui fait pleurer ses adversaires. Pendant plus de 10 ans, il enquille 16 autres chelems. Au milieu de cette domination, il décroche le titre qui manquait à sa collègue, Roland-Garros 2009. Un tour nerveusement épuisant après l'élimination surprise de Rafael Nadal par Söderling. L'Espagnol est l'un des cauchemars sur le circuit avec Novak Djokovic, qui le brise deux fois en finale de Wimbledon en 2014 et 2015. Mais les soucis physiques arrivent plus tard. Et lorsqu'il reprend la compétition à l'Open d'Australie 2017, personne ne le croit capable de rivaliser avec ses rivaux. Et pourtant, il a travaillé un nouveau revers qui fait des ravages. La finale face à Rafael Nadal est mémorable. Au cœur de la bagarre, un échange ahurissant fait perdre toute raison à Henri Lecomte et Frédéric Verdier qui sont aux commentaires sur Eurosport.
C'est le point du match. Un point de géant.
Non mais vous pensez qu'on le reverra combien de fois dans les 50 prochaines années, ce point, hein?
Il a raison, Fred. Un an plus tard, il conserve son titre à Melbourne et empoche le chelem numéro 20. Il n'y aura jamais de 21e. Wimbledon 2019. Dans une ambiance hostile, Novak Djokovic sauve deux balles de match sur le center court. Roger Federer ne se remettra jamais vraiment de cette défaite. Son genou le fait souffrir. Opéré à deux reprises en 2020, il n'est plus le même. Son quart de finale à Wimbledon face à Hubert Hurkacz l'an passé est un calvaire. Depuis ma petite cabine, j'ai un mauvais pressentiment.
Roger Federer n'a jamais encaissé une bulle sur le gazon de Wimbledon. Le central est sous le choc. C'est le 1526e match de Federer et je crois qu'il n'y en aura plus beaucoup derrière et ça me fait drôle de dire ça.
Ouais, j'aurais préféré me tromper, mais Roger Federer était arrivé au bout de son fabuleux chemin. Son message d'adieu hier a dépassé les 13 millions de vues sur Instagram. Les hommages pleuvent. Djokovic s'est réveillé à l'instant. Et dans 10 jours à Londres, à l'occasion de la Lever Cup, le scénario est écrit d'avance. Pour sa dernière danse, il aura un partenaire de choix, Rafael Nadal. Et il faudra probablement sortir les mouchoirs.
Merci Eric. Et c'est vrai que non seulement il a été long à réagir, Djoko, mais il n'a rien dit. Hein. Il a dit, Roger, c'est difficile de vivre ça et de mettre des mots sur tout ce que nous avons partagé dans ce sport ensemble, comme s'il ne souhaitait pas vraiment dire ce qu'il a sur le cœur. Alors,
Non, voilà. Il était au mariage de son frère, apparemment, non, ils ont bien fêté ça. Donc
voilà, soit c'est le cadet de ses soucis, soit il est très ému. Les deux sont possibles.
Ouais, Vincent, il n'est pas mort non plus.
Oui,
il peut attendre un jour pour réagir.
Il a réagi pour ne rien dire, c'est pour ça.
C'est pas vrai ce que tu dis. J'ai dit jusqu'au bout. Tu vas voir. Il parle de sa femme. Il parle de. Non, c'est pas vrai.
Alors, Vincent. Là, il pense qu'on a un tyran Westminster. C'est ça. On a l'impression qu'on balance ce son
deuil. On débriefera lundi parce que là, on va parler de Federer. Est-ce que c'est le GOAT, oui ou non, Vincent?
C'est le GOAT.
C'est le GOAT. Le plus grand de tous les temps. GOAT, ça veut dire greatest of all time.
Non, le problème, c'est que t'es obligé de. La façon de jouer, son élégance, c'est un art. Il a monté le tennis au niveau d'un art. C'est Modigliani, c'est Van Gogh, tout ça. C'est un mec qui mais après, quand même, il y a quand même le CV qui compte. Celui qui est en tête, c'est 22 Grand Chelem. C'est Nadal. Donc, bien sûr qu'il fait partie des GOAT, mais c'est pas le GOAT. C'est pas le GOAT.
Non, c'est pas le GOAT. Toi, tu t'en remets au palmarès.
Non, c'est pas parce qu'il arrête. C'est pas parce qu'il arrête qu'on est obligé d'y faire des lipettes. Moi, je connais des grands. Je vous l'ai dit que je connaissais, j'étais ami avec Mike Tyson. Je l'avais dit, Pierrot.
Bon, d'ailleurs, tu devais. Ouais, d'ailleurs, il t'appelle Pierrot, il devait venir à l'anniversaire.
Écoute-moi, mais c'est pas. À un moment donné, on est en sport, on est en compétition, on n'est pas dans un concours artistique. Tu vois, il n'y a pas une note artistique. S'il y avait une note artistique, eh bien, il aurait 20 grands chelems plus une note à 18 sur 20 artistiques. Mais il n'y en a pas. Ce qui compte, c'est le CV. Bien sûr que c'est un des plus grands, mais le plus grand, pour l'instant, ça reste Nadal. C'est tout. Point. Parce qu'il y a 22 grands chelems. C'est tout. C'est tout. Quel est le type le plus sélectionné au foot? Il est sélectionné parce qu'il a 150 sélections. Au rugby, parce qu'il a 110 ou 120 sélections.
Non, ça ne marche pas, justement.
Mais si, ça marche. Mais non, ça marche. Qu'est-ce qui restera dans l'histoire?
Je vais te donner le contre-exemple.
Les écrits resteront, et les écrits, ça sera 22 pour Nadal et 20 pour Federer.
L'exemple que tu as donné, il n'est pas beau, puisque Platini, il a quoi, 78? Combien de sélections? 80?
T'as raison, mais celui qui a 150 sélections.
Etiana de la génération 98, ils ont 120 sélections.
Mais en rugby, c'est pareil, il y a plus de matchs qu'avant.
Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas. Vas-y Denis, on peut pas résumer au parce que les trois là, les extraterrestres vont rester peut-être long moment comme ça, loin devant les autres. En plus, c'est quoi les autres? Eric est toujours avec nous.
Eric est toujours
le quatrième dans la hiérarchie du nombre de grands chelems. Il est à combien derrière? Parce qu'il est à des années lumière, non?
Ça doit être Sampras, non?
12 ou 13.
72 sélections Platini. Voudrais faire le tour d'abord de.
Pour dire que oui, parce que il y a pas que le palmarès, il y a pas que le nombre de grands chelems, il y a aussi ce qu'il a dégagé dans le jeu, puisque lui c'était le talent à l'état pur avec le beau jeu, et c'est souvent on s'en souvient souvent de ces joueurs là, que ce soit dans le foot, dans le rugby, dans plein de sports comme ça, dans le golf, les mecs, c'est pas obligatoirement toujours rationnel avec les stats, quoi, je trouve, et tant mieux d'ailleurs.
C'est pas rationnel, mais il y a des stats qui parle d'elle-même. Nadal, il l'a battu 24 fois sur 40 et Djokovic l'a battu 27 fois sur 50.
Eh ben.
Mais je veux dire, c'est pour ça que je dis que c'est pas le GOAT. C'est que pour moi,
tu as vu ce qu'il vient de dire. Redonne-moi les stats. On rigole. Vas-y, dis-moi.
Djokovic l'a battu 27 fois sur 50 de confrontation.
Donc ça fait un a gagné 23 fois, l'autre 27 fois.
L'autre 40. Mais c'est fini.
Sur 40, tu as dit.
24 fois sur 40 pour Nadal.
Ça fait 16 et 24. C'est eu des années-lumière.
Ah mais d'accord,
je croyais que le mec, il y a 40 matchs, il a battu 38 fois, tu vois, ou 32.
Mais
je croyais que les stats étaient plus spectaculaires que ça quand tu me la vends.
Mais non, 24-16,
donc Nadal, c'est énorme.
Non, mais Vincent, moi je vais dans le sens de Vincent, il a tout résumé. T'es obligé de prendre en compte les performances des uns et des autres. T'es obligé. Après, évidemment que la seule différence, c'est que lui, il est unique. C'est-à-dire que on a tous des références quand on grandit enfant. On a juste tous des mecs qu'on regarde avec des yeux pleins de d'admiration. Mais lui, il représente un idéal. C'est différent. Si tu dis quel est le meilleur joueur, celui que tu aimerais voir jouer, c'est lui. Donc, à la différence des autres, c'est qu'il a fait rêver tout le monde. Et que Nadal, il s'était partagé dans son public, c'est-à-dire il y a des anti-Nadal, comme Djoko. Et lui, c'est le seul qui a fait rêver tout le monde, parce qu'il avait un jeu unique. Mais je ne mets pas le GOAT. Le GOAT, pour moi.
On continue le débat, Eric. Tu vas pouvoir répondre à Denis et à Vincent. D'abord, le basket. Donc, 3 minutes dans ce match, dans cette demi-finale. France-Pologne, Arnaud Valadon et Stephen Brun.
Stephen est énervé à double titre en vous entendant et avec le score, même s'il y a 3 points d'avance pour les Bleus. 5-2, 3 minutes de jouer. Stephen, d'habitude, ce 5 de départ marche très bien, lance très bien l'équipe de France. Là, c'est pas trop le cas, notamment en attaque.
Ouais, les Français ont débuté par 2 ballons perdus. On s'est dit, ça y est, c'est reparti. Et puis, le meilleur joueur de cette équipe de France depuis le début de la compétition, Gershon Yabusele, est arrivé. Un tir à 3 points, un drive, 5 points inscrits par l'intérieur du Real Madrid. Et là, 3e ballon perdu avec cette faute offensive de Rudy Gobert. Pour l'instant, les Français, fidèles à eux-mêmes, on mène 5-2 et on a perdu 3 ballons. Voilà.
Stephen, tu as un joker, c'est-à-dire là, soit on continue un peu sur le basket, soit tu nous donnes ton avis sur le débat.
Alors, Vincent, Denis partent du principe que ce débat il s'arrête au titre du Grand Chelem. Moi, j'ai envie de l'élargir un petit peu. Là, vous allez me dire, oui, ça t'arrange. Federer a gagné 103 tournois. Djoko et Nadal sont quand même loin derrière. Le pourcentage de victoire de Federer est monstrueux. Après, moi, j'ai envie de prendre tout en compte, en fait. La beauté du jeu, la ferveur populaire. Il n'y a pas photo en termes de ferveur populaire entre Federer, Nadal et Djoko. Après, c'est un débat qui va tourner en rond. Moi, j'ai plus d'affinité sur le jeu de Federer parce que j'ai l'impression que tout était facile pour Federer. Quand tu regardes Nadal jouer, tu te dis, ah, il force, alors que Federer, c'était la beauté au naturel. Alors bien sûr que quand Nadal prendra sa retraite, on aura aussi les débats comme ça et on pourra dire beaucoup de très belles choses sur Rafa Nadal. Quand Djoko prendra sa retraite, je ne sais pas si on trouvera des bonnes choses à dire.
Il a craqué des
Et pour répondre, le quatrième, c'est Pete Sampras, je crois, avec 14 titres du Grand Chelem.
J'allais le dire. Donc,
qu'on pensait à l'époque inatteignable, ce chiffre de 14, et on s'est rendu compte que les trois ont tous les fruits.
Bon, alors on va accueillir Ahmad au 32-16. Qu'est-ce que tu voulais ajouter, Eric?
Mais c'est pour ça, parce que quand tu parles de GOAT, il faut pas ou de meilleur ou de d'historique, puisqu'en réalité c'est ça. Il faut pas parler à l'instant T. En réalité, c'est celui qui va rester dans l'histoire, c'est ça. Et puisque tu me chambrais sur Cruyff tout à l'heure, Cruyff il a jamais été champion du monde, mais il avait un truc en plus dans le charisme, dans cette équipe des Pays-Bas qui était merveilleuse. C'était les Beatles du football. Et dans le subconscient, il est toujours là-haut, voilà. Et pourtant, il a jamais été champion du monde, donc c'est pour ça qu'à un moment donné.
Et Maradona et Pelé aussi. Qui restent dans l'histoire.
Platini a pas gagné la Coupe.
Mais les trois sont restés dans l'histoire,
mais davantage ceux qui sont champions du monde.
Après, t'as l'inverse avec Jordan qui n'a pas le plus gros palmarès et qui est unanimement reconnu comme le GOAT.
C'est pour ça qu'il faut pas se tenir aux chiffres. C'est peu bête, je trouve.
Parce qu'il a Ahmad, Ahmad au 32-16. Bonjour Ahmad.
Ouais, salut les SMS, vous allez bien?
Très bien.
Ouais, écoute, on
est Federer est-il le GOAT?
Ça fait plaisir de vous avoir parce que je vous écoute tout le temps en podcast. Voilà. Je suis heureux de vous avoir. Déjà, moi, je suis d'accord avec Eric.
Là, t'es en podcast ou t'es en live, là? Oui.
Non, là, je suis. tu commences, Vincent. Laisse-moi développer un peu mon idée parce que vu que toi, t'es une pompe, hein, comme Denis aussi, hein, moi, je suis d'accord avec Eric. Donc, du coup, je vais développer rapidement. Juste, Pierrot, en fait, je voulais juste te dire que c'est moi, hein, d'accord? L'auditeur de Basket Time, c'est moi.
Sur ce mois, on est à plus de 100 000 téléchargements. Après,
non, mais j'ai un auditeur en fait.
T'as peut-être téléchargé 100 000 fois Basket Time, peut-être.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Non, je plaisante. Non, mais alors, juste pour en revenir sur la question du GOAT, pour moi, oui, effectivement, c'est Federer. Juste par rapport déjà à la définition du mot. Quand on dit GOAT, c'est greatest. Donc greatest, c'est pas forcément le meilleur. C'est celui qui, ou celui qui a le plus gros palmarès. C'est celui qui laisse la plus grande empreinte dans le monde.
C'est-à-dire le plus grand.
Exactement. Et quand on dit le plus grand, c'est pas forcément le palmarès, c'est aussi la trace qu'on
l'empreinte,
a sur la légalité.
J'aime bien ça.
L'empreinte, c'est ça. Exactement. Ouais. Et pour moi, le meilleur.
Après, ça, c'est toi qui définis.
Oui, voilà.
Pour moi, le meilleur tennisman de l'histoire, c'est Djokovic. D'accord, mais le plus grand, c'est Federer, dans le sens où il a amené le tennis dans une nouvelle dimension, à l'instar par exemple d'un Tiger Woods. D'accord, Tiger Woods, il n'a pas le plus grand palmarès au golf, mais pourtant pour moi c'est le plus grand golfeur parce que
il a jamais rattrapé Nicklaus et pourtant c'est lui qui va rester.
Mais exactement. Pourquoi Djoko est le plus grand tennisman alors?
Alors, déjà l'image qu'il donne sur le court et en dehors du court, le jeu qu'il a, parce qu'on n'en verra pas d'autres des Federer, ou alors dans dans 35 ans, mais à ce moment-là, bon, Vincent, il sera déjà dans la boîte à gants, quoi.
Donc, dans la boîte à gants, il n'y aura pas assez de place.
Non, mais ce que je veux dire, c'est le jeu qu'il a apporté, l'image, les coups qu'il donne. Tapez-vous les highlights de Federer, c'est un truc de fou, quoi. Et d'ailleurs, juste, on disait déjà, quand Federer avait 10 grands chelems, alors qu'il était, il n'avait même pas dépassé Sampras, on disait déjà de lui que c'était le plus grand.
Ah oui, mais là où t'es malhonnête, c'est qu'à l'époque, Nadal n'était pas encore Nadal et Djoko n'était pas encore Djoko.
Non, mais attends, Nadal déjà avait déjà
Roland Garros, etc. Quand Federer je me souviens très bien de cette époque où on disait c'est le plus grand, mais il régnait seul, pratiquement. Oui, les autres ont pris une autre dimension depuis, quand même.
Oui, mais c'est également par rapport au jeu. C'est ça que je veux dire. C'est la trace qu'on laisse, en fait. Mmh. La trace qu'on laisse. Et t'as donné le très bon exemple, Pierrot, avec Jordan. Eric avec Jordan. Jordan, il a pas le plus grand palmarès. Pourtant, on dit que c'est lui le plus grand. Et pourquoi? Parce que
Mohamed
Ali, exactement. Parce qu'en fait, ils engendrent des gens des enfants, et en fait, qui disent, je me suis inspiré de lui. Et quand vous voyez les interviews de la nouvelle génération, 7 personnes environ sur 10, ils vous disent, c'est Federer pour eux le plus grand. Donc, 7 pour
sur 10.
Moi,
Il a le droit de faire ses sondages à lui.
Merci pour Basket Time.